Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Monsieur Alice, ça va mec?
Ça va et toi?
Ouais, ça va. Bon, on est à l'hôtel des joueurs, tu dors ici?
Ouais, je dors ici comme beaucoup de joueurs.
Bon, on est à l'Open d'Australie, du coup, tout le monde l'a compris, et on va aller dans un endroit de la ville que t'aimes bien, pas loin d'ici. T'as une idée en tête ou pas?
On va aller se prendre un petit café, un petit banana bread.
C'est beau ça.
On va essayer de se trouver un petit goûter sympa.
Allez, viens. Du coup, tu loges ici à chaque fois que tu viens à Melbourne ou?
J'ai changé juste l'année dernière et j'ai chopé le Covid.
Ah.
Du coup, cet hôtel-là ne me reverra plus. Mais sinon, ouais, j'aime bien cet hôtel. Il est bien situé. Il est assez proche. Il est très, très proche du site. Il est vraiment cool. Il y a une super salle de gym.
Ouais.
Il y a un super terrain de tennis où je t'ai vu ne pas mettre un revers hier soir.
Sympa. Alors que c'est mon coup fort.
Mais non, franchement, c'est cool. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui restent ici. Il y a quasiment tous les Français. Donc, quand tu arrives le matin au petit-déj, c'est sympa de voir des têtes que tu connais déjà.
Donc là, quand on arrive ici, il y a toutes les navettes du tournoi. C'est plutôt méga bien organisé. Qu'est-ce que tu ressens, toi, ici à Melbourne? Comment tu vis le truc par rapport aux autres grands chelems, par exemple?
Bon, honnêtement, c'est une ville que j'adore. L'ambiance est tellement cool. Les gens sont hyper, hyper sympas. Déjà, quand tu arrives fin décembre, début janvier, qu'il fait hyper chaud, c'est tellement cool.
Ouais.
Et moi, c'est un tournoi que j'ai toujours adoré. Je suis toujours hyper content de revenir ici. Beaucoup, beaucoup de plaisir à chaque fois que j'arrive ici et encore plus à Melbourne où j'ai des bons souvenirs. À chaque fois, j'ai rarement gagné, mais j'ai souvent eu des bons matchs sur des bons cours. C'est une ambiance que j'aime vraiment beaucoup et je suis toujours hyper content de partir au soleil fin décembre.
T'as des habitudes un peu quand tu te balades ici? Il y a des endroits où tu aimes aller particulièrement? C'est un peu grand, là je galère avec la perche, mais bon.
On va un peu toujours dans les mêmes endroits. C'est là où on est un peu nuls les Français, c'est qu'on a nos petits repères.
Ouais.
Je passe plutôt pas mal de temps au club ces derniers temps pour ma préparation. Je suis pas trop du genre à aller dans les cafés, je suis plus du genre à rester à l'hôtel, tout ça dans la journée. Donc j'ai pas mille lieux, mais on va se trouver un petit café sympathique dans le coin, il y en a pas mal.
Tu m'avais dit que ce matin tu étais allé jouer au golf. C'est une petite habitude que tu as sur les tournois pour t'aérer. T'es en jour off là. Est-ce que tu peux nous dire du coup, c'est quoi tes habitudes sur le golf et les occupations dehors du tennis sur les tournois quoi?
Bah, c'est vraiment un truc que je kiffe faire en dehors du tennis. J'adore faire du sport en général, mais voilà, le golf, ça te permet de marcher. Tu regardes pas ton téléphone, tu sors un peu de la chambre. On n'a pas fait longtemps, on a fait 9 trous, ça a duré une petite heure et demie, voilà, ça permet de se détendre en jour off, de ne pas rien faire non plus, de ne pas rester cloué au lit. Donc je trouvais ça sympa et voilà, parfois il y a vraiment des super beaux golfs sur le tour. Donc ça permet aussi de découvrir des golfs hyper sympas et puis voilà, d'essayer de se marrer et de progresser un peu. Surtout quand il fait beau comme ça, il y a quand même pire.
Tu joues combien toi?
Je joue très mal.
Super. Et tu joues avec qui?
Je joue souvent avec mon coach.
Nico De Wilder.
Avec Nico De Wilder, mais sinon, je sais qu'Edouard Roger Vasselin joue très bien.
Ouais.
Non, les Français, en général, le capitaine de la Fed Cup, Julien Beneteau, joue très bien aussi.
Ah ouais? Tu te fais cirer à chaque fois par eux ou t'arrives à les tenir?
Non, eux, ils y vont un peu plus que moi, mais non, ils sont beaucoup plus forts que moi, mais ça reste des bons moments de détente un peu comme aujourd'hui sur mon day off. Au final, j'ai pas pensé au tennis, j'étais décontracté, j'avais pas mon tel et puis c'est cool.
Et quand tu es joueur comme ça dans une ville, l'Australian Open, c'est l'événement le plus important sportif de la ville, de toute l'année. Donc vous êtes des rockstars, clairement. Tu sens que, je vois que t'as pas l'air d'accord.
J'en suis pas une, moi, mais...
Si, regarde. Regarde bien.
Non, c'est sûr que c'est cool, mais voilà, on ressent pas du tout cette, euh, cette atmosphère pesante, tout stressante. C'est vrai que la ville, elle est tellement sereine, les gens sont tellement sympas, cool.
Ouais.
Même sur le tournoi, je pense que tu as dû prendre des vidéos sur les matchs des Français, il y a une ambiance de fou, il y a tellement de Français qui habitent et qui vivent ici. En tous les coins de rue, ça parle français. Mais non, enfin, on n'est pas des rockstars. C'est sûr que les tout meilleurs ici, Joko et tout, mais l'autre fois, on est allé dans un resto, il y avait Casper Ruud, il mangeait hyper tranquille. Et c'est ça qui est cool ici, c'est qu'à la fois, il y a une ambiance tellement passionnée sur les terrains et tellement cool en dehors que voilà, les mecs, ils sont quand même vachement tranquilles et qu'ils peuvent aller dîner, je pense, un peu plus sereinement que dans les autres villes du Grand Chelem où là, ils sont vraiment considérés comme des rockstars et je pense que c'est un peu plus dur pour eux de sortir dans des restos classiques.
Et quand tu vas faire un golf, tu demandes à la conciergerie des joueurs et tu es accueilli là-bas un peu comme... Bon, t'aimes pas le terme, mais comme quelqu'un...
Non, franchement...
On sent que t'es un athlète de haut niveau ou ça se passe comment?
Non, du tout. On avait un départ avec des gens normaux et c'est ça qui est...
Que t'as réservé, toi?
Non, on a demandé à la conciergerie des joueurs pour avoir un truc, mais voilà...
Et ça, c'est eux qui vous le payent?
On a des tarifs, mais c'est... On paye pas très cher, mais on paye un petit peu. Mais voilà, c'était cool de jouer avec d'autres gens, de découvrir des gens d'ici. Et puis non, moi, j'aime bien passer pour une... personne normale parce que je me considère une personne normale, mais non, voilà, si on a besoin de quelque chose comme un golf, on peut leur demander, et puis moi je leur ai demandé vraiment un truc facile, c'était à 10 minutes d'ici, et puis le golf était au niveau de mon niveau.
Donc les juniors il y a 11 ans,
ouais,
et ensuite en senior combien de tableaux?
J'ai eu wildcard en 2016 je pense.
Ouais.
J'ai perdu contre... Non. Ma première participation, j'ai gagné un match contre Dodig. C'est la seule fois que j'ai gagné un match dans le tableau.
Ouais.
J'ai perdu contre Joko. L'année d'après, j'ai eu wildcard. J'ai perdu contre Kéré. Je me suis qualifié. Je me suis qualifié deux fois en Australie.
D'accord.
Je me suis même qualifié trois fois. Une fois, c'était à Doha pendant le Covid. Et l'année dernière, j'ai perdu contre Tsitsipas.
Combien?
J'aurais dit 6, en comptant les qualifs.
D'accord. Non, mais contre Tsitsipas, ça avait fait combien?
6-2, 6-3, 7-6, un truc comme ça.
Ok. Tu t'es senti loin ou t'es senti comment?
En fait, pour tout te dire, j'avais le Covid.
Ah ouais.
Du coup, j'étais resté dans ma chambre 3 jours avant. C'était pas la meilleure des prépas.
Ouais.
Donc, c'est un match un peu faussé.
Ouais. T'as quel âge, là?
Là, j'ai 27 ans.
Oui, ça va, t'as encore...
J'ai encore 10 ans, ouais.
Ah, on y vient ou pas?
Non, c'est dur. C'est une question qui revient souvent, mais c'est dur de savoir combien de temps je vais jouer. Pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas de blessure. J'ai rien du tout, donc j'ai pas eu de saison arrêtée à cause de blessure, tout ça. Mais c'est dur de savoir si je vais me blesser, pas me blesser. Enfin, mon classement, ça dépend de pas mal de paramètres.
Et puis l'envie, surtout.
Puis l'envie, aujourd'hui, j'ai encore très envie.
Ok.
Mais très dur de dire si je vais jouer encore 5 ans, 10 ans, 7
parce
ans.
Parce qu'il y a ce truc où on a fait l'épisode de podcast ensemble pendant le Covid.
Ouais.
Et je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'en le montant, j'avais oublié que tu m'avais dit je sais pas si je serai là encore dans 10 ans. Comme si à l'époque, on sentait peut-être une petite lassitude, non?
Ouais, il y avait le Covid aussi. Il y avait mon...
Ah, non, fermé. Superbe.
Il y avait mon classement qui était un peu moins bon. Il y avait... Je pense que ça dépend aussi vachement des...
Juste une question, est-ce que tu serais du genre, si je t'emmène voir un concert de eux, tu me dis quoi?
La fan? Je pense que je serais malade et je serais dans ma chambre.
Tu déclines?
Ouais, je pense que je décline.
je suis un peu dégoûté parce que lui, j'avais très envie d'aller le voir. Je suis un peu vexé.
Je te l'aurais laissé.
Ouais, du coup, Covid, pas...
Covid compliqué, classement compliqué, tu sais pas forcément où tu vas, donc ça dépend vraiment des périodes.
Ouais.
Depuis 2 ans, j'ai très bien joué, je suis monté, donc c'est sûr que mes perspectives sont différentes, donc j'ai pas forcément la même réponse que...
Qu'à l'époque? Oh, il connaît un shortcut, ça me plaît ça.
Et j'ai pas forcément les mêmes attentes de moi, j'ai d'autres objectifs, j'ai vécu d'autres choses, donc voilà, la réponse elle est différente, mais... Voilà, c'est hyper dur physiquement, savoir comment je me sentirais en termes de motivation aussi. Et ça, c'est aussi vachement à cause du classement, si tu continues ou si tu continues pas.
Parce que t'as brisé la barrière du top 100 il n'y a pas longtemps. Donc, t'as peut-être de meilleures conditions, tu gagnes aussi mieux ta vie, et c'est ça qui pousse à, qui redonne un peu le fire aussi, ça joue forcément.
Forcément, mais on va pas se mentir, hein, les challengers c'est sympa et tout, mais c'est pas pour ça que tu joues au tennis. Tu joues au tennis pour faire les grands chelems, pour faire des beaux tournois, pour battre des bons mecs.
Ouais.
Donc voilà, sur les challengers, tu t'accroches, tu t'arraches pour justement monter, mais je pense qu'à 33, 34 ans, c'est dur d'aller passer un ou deux ans sur les challengers. Et le niveau est tellement fort là-bas, et voilà, les conditions sont un petit peu moins bonnes, c'est un peu moins sympa, donc c'est difficile de se projeter sur des saisons de challenger, je pense, quand t'as 33, 34 ans et que t'as déjà connu des saisons où tu joues les Master 1000 et les Grand Chelem.
Quand tu vois Richie qui le fait à 36, 37, là, tu te dis que c'est un monstre, le mec, de faire ça, ou tu dis
ouais, c'est un monstre, mais bon, Richie, il est quand même... Enfin, là, il va en sortir lundi décembre, mais il est encore dans les 100, il joue encore les Grand Chelem, il est encore tableau quasiment de tous les Master 1000, donc... pour le moment, il n'est pas encore sorti de la boucle, quoi. Donc,
ouais.
Là, il va en sortir. À voir s'il va réussir à remonter. Je pense que oui, mais voilà, ça va être dur. Il va falloir qu'il reparte en challenger. Est-ce qu'il aura la grinta de le faire? Est-ce qu'il va réussir à remonter aussi?
Ouais.
Il y a pas mal de questions, donc, mais c'est sûr que c'est hyper courageux. Et voilà, c'est fort de pouvoir faire ça quand même.
Je comprends bien, oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a permis de passer cette fameuse barrière du top 100 à un moment donné? T'as fait combien de semaines d'ailleurs?
J'ai fait combien de semaines?
Dans les 100.
Je crois que j'en suis sorti la semaine dernière fois que j'aurais été 101.
Ouais.
J'ai pas en tête le nombre de semaines exactes. Mais bon, voilà, je considère que quand t'es 95 ou 101, 102,
pareil,
ça change pas grand chose. À part là, voilà, où j'ai failli rater le cut pour le tableau d'ici de l'Open Australie, c'est vraiment ça qui change, quoi, que...
C'est combien le cut?
Voilà, cette année c'était moi, c'était 100 tout pile.
Ouais.
Donc voilà, c'est plus, enfin moi c'est plus ça qui m'importe. Après voilà, c'est sûr que je te cache pas que j'ai envie de remonter là où j'étais il y a quelques mois.
Ouais.
Un peu mieux classé et même encore mieux, donc voilà, sûr que voilà, la barrière du top 100 elle est sympathique maintenant que je l'ai déjà classé une fois. Je pense que, c'est même sûr, elle a beaucoup moins d'importance qu'avant et je veux aller encore plus haut.
Qu'est-ce que t'as fait évoluer dans ton jeu pour aller grappiller ces quelques places qui te manquaient?
Très sincèrement, je pense pas que j'ai progressé dans énormément de choses, mais c'est juste que je suis beaucoup plus constant, je suis beaucoup plus régulier, je sais tous les efforts qu'il faut faire. Je suis un peu meilleur, je pense, sur la côté. Je fais un peu mieux mes récup, je m'entraîne probablement un peu mieux et je suis plus constant sur mes saisons. Mon jeu en soi, il n'a pas énormément progressé, mais c'est juste voilà, faire des saisons vraiment complètes et le petit match que tu vas gagner ou que tu vas perdre, bah, qui va faire que parfois tu vas te retrouver en demi, tu vas passer en finale. Et sur une saison, bah, y a plein de petits matchs comme ça clés qui vont te faire basculer ta saison. Bah, tu vas la finir 80 ou alors tu la finis 120 bah, si tu as perdu à chaque fois en quart le match qu'il fallait gagner.
Ouais.
Donc voilà, et on en voit plein là des Français qui sont en train de passer le cap et je pense qu'ils ont gagné vachement en constant. Je pense à Alex Muller, je pense même à Greg Barrère qui a bien stabilisé son classement, Arthur.
Constant Lestienne.
Constant, voilà, même qui a eu une petite baisse de confiance l'année dernière et finalement il est remonté. Il y a Arthur Cazot, mais voilà, ça prend un peu de temps et parfois ça prend du temps à... Là, il y a pas mal de petits cafés ici.
Ah.
Bah, parfois, ça prend du temps à se mettre en place. Moi, ça a été un peu le cas. Et je pense que voilà, je vis mieux la vie sur le circuit aussi. J'apprends moins les longues tournées, chose que j'avais du mal à faire au début.
Ouais.
Et puis voilà, mais je pense pas que mon tennis en lui-même, il est explosé ou que j'ai changé un milliard de trucs.
Ok. T'envoies toujours d'énormes rouleaux en coup droit. Ça décale et en revanche, tu fais mieux la récup, quoi.
Bah, en tout cas, j'essaye de servir fort et de frapper fort en coup droit.
Ouais. C'est toujours à faire gaffe, à pas de caféine après une certaine heure, dessert, y a les molos, tout ça, ou t'es assez
J'étais assez flexible et j'essaie de faire de plus en plus attention. Donc, quand je te parlais de récup, tout ça, c'est des petits détails, mais j'essaye de devenir un peu plus pro sur ce genre de truc, même si c'est pas toujours hyper facile, mais... Non, j'essaie de faire un peu plus attention.
T'as un prépa mental ou pas?
Ouais.
Depuis combien de temps?
Alors en fait, c'est quelqu'un avec qui je bossais quand j'étais plus jeune à l'INSEP.
Ouais.
Et on a repris un peu contact et on se parle régulièrement au téléphone ou à Paris quand je suis à Paris.
Ok, donc prépa mentale que tu avais déjà en étant jeune et tu as raccroché les wagons pour quelle raison?
Bah, parce que quand tu es 19, 20 ans, parfois tu n'as pas l'impression que c'est forcément utile. J'étais encore en phase de progression, tout ça, et j'en ai ressenti le besoin là, à la sortie du Covid, tout ça, ça me fait du bien. Et voilà, je pense que maintenant j'en ai la nécessité, l'envie, le besoin, et que je comprends un peu mieux pourquoi je le fais, alors qu'avant c'était pas forcément le cas.
Ouais.
Je le faisais un peu plus par obligation, et que maintenant ça vient de moi, c'est ma demande, et oui, je sais pourquoi j'y vais, parce que j'ai besoin de travailler là-dessus, j'ai besoin d'être meilleur sur ces points-là pour continuer de progresser. Donc voilà.
Je suis sûr comme ça pour être sûr que ça va bien dessus. Et est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes, c'est quoi ces points-là ou c'est un peu trop intime ?
Il n'y a pas vraiment de points précis, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes quand tout va bien, c'est voilà, continuer. Essayer de ne pas forcément se mettre dans le trou, là ça fait longtemps que je me prépare pour un grand chelem, et avant ces phases-là elles étaient assez stressantes où j'avais du mal à vraiment me canaliser, je pouvais être très nerveux pendant ces phases de préparation.
Okay.
C'est finalement plein de petits détails qu'on va essayer de bosser ensemble, essayer de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je joue, pourquoi parfois je peux péter les plombs, pourquoi parfois je vais justement être trop calme, et c'est arriver à trouver voilà, ce juste milieu, essayer de parler, sortir les choses aussi.
Ouais.
Chose que je ne suis pas forcément très bon en communication avec mon coach ou quoi parfois. Donc c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur, quelqu'un qui, avec qui tu peux parler un peu plus librement aussi. Donc c'est un regard aussi extérieur, quelqu'un qui n'est pas au quotidien avec nous. Donc, qui peut aussi donner son avis de l'extérieur, comment elle ressent les choses, qui fait aussi le lien parfois avec Nico, mon entraîneur. Et voilà, et je trouve que ça m'apporte plus de confiance. Et le fait de parler, de se libérer, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et parfois, il y a des choses que je dis à elle que je ne dis pas à Nico, et l'inverse aussi. Donc voilà, je trouve que ça fait du bien de pouvoir parler de différents sujets à une personne qui fait partie de mon staff, mais qui n'est pas au quotidien avec nous.
Tu l'appelles quoi, quand tu le sens, une fois par semaine?
Ouais, on est en contact via WhatsApp très régulièrement. Et
audio plus?
Ouais, audio, message, je donne des nouvelles assez...
Merci.
Thank you. Régulièrement, et après...
Incroyable. Petite crème, là. On la monte, la crème, ou pas? Ils font ça bien, les Australiens.
C'est du lait.
Ouais, c'est du lait.
Et non, on n'a pas de rythme vraiment régulier. C'est vraiment au feeling, parce que le tennis, il n'y a pas de rythme très régulier. Tu peux faire que des first, tu peux enchaîner les matchs, tu peux voyager, tu peux aller bien, tu peux aller mal. Donc vraiment, on se tient au courant régulièrement par WhatsApp, et quand il y a besoin, on essaie de caler des visios. C'est un peu plus difficile avec le décalage horaire ici, mais on s'arrange toujours pour que ça puisse matcher avec les deux honoraires.
Ouais. Et c'est quoi? C'est un forfait mensuel et après tu sollicites autant que tu veux, quoi?
Ouais, c'est à la séance, c'est un forfait par toutes les 10 séances.
D'accord.
Et puis voilà, mais voilà, c'est, elle est vraiment à l'écoute, et elle est vraiment... C'est moi qui suis le moteur du truc. Voilà, elle me propose, mais elle ne m'obligera jamais à prendre des séances, quoi. C'est vraiment moi qui dis quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Et,
ouais.
Et puis voilà, je sens que ça m'apporte plus de sérénité, et que même moi, ça me fait me questionner sur des choses que...
Waouh!
Ça, c'est beau.
Je comprends pas ça. Pas compris.
Sur lesquelles je me serais pas forcément remis en question, ou que j'aurais réfléchi par moi-même. Donc,
Ouais, ok. Nico Delillard, ça fait combien de temps, ton coach, que vous bossez ensemble?
Depuis le Covid.
Donc 3 ans, 4 ans?
Ouais, ça va faire 4 ans.
C'est une affaire, une histoire qui dure?
C'est une histoire qui dure, ouais, ça se passe bien. Écoute, on a bien progressé ensemble, on se comprend, on se connaît de plus en plus, parce que voilà, on passe énormément de temps ensemble.
Ouais, à tiens.
Donc Non, ça se passe vraiment très bien et j'espère qu'on continuera encore pour longtemps ensemble.
C'est, là, ça fait un an et demi, je vais sur pas mal de tournois et je peux voir une certaine valse des coachs parfois, notamment chez les filles. Hein, ça éjecte beaucoup. Après trois défaites, boum, tu sautes. Puis il y a beaucoup de mecs qui coachent chez les filles, qui tournent du coup, qui coachent pas forcément chez les gars. Comment tu le vois toi de l'extérieur et comment tu le vis? Est-ce que tu as besoin d'un mix de fin technicien slash sensible émotionnellement slash pote? Est-ce que parfois tu peux être à deux doigts, tout envoyer chier, virer tout le monde, mais boum, tu prends une séance avec ta prépa mentale, ça va mieux? C'est quoi ta gestion toi de l'intérieur vis-à-vis du coach?
Moi j'ai toujours voulu avoir un coach avec qui j'étais relativement, on va dire, proche en âge, avec qui voilà, je pouvais avoir une vraie relation de confiance, avec qui je pouvais vraiment parler, avec qui je pouvais vraiment être compris. J'ai jamais eu envie de tout envoyer chier après une défaite.
C'est pas ton tempérament.
C'est pas vraiment mon tempérament et plus je vieillis entre guillemets, plus j'aimerais que ce projet il aille loin tant que c'est sain et tant qu'on s'y retrouve tous les deux. Parce que voilà, plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu es à même de l'aider dans les moments difficiles ou même dans les bons moments pour qu'on aille le plus loin possible. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une des personnes qui me connaît le mieux. Et donc pour continuer à progresser, je pense que pour moi, avoir une vraie stabilité, savoir où on va, comment on va, comment on s'entraîne, comment on fonctionne depuis pas mal d'années, savoir que ça fonctionne, savoir qu'il me connaît bien, c'est hyper rassurant et c'est pour ça que j'espère que ça va s'inscrire dans la durée. Et par le passé, j'ai pu avoir quelques relations avec des coachs où ça a moins duré.
Ouais.
Au final, c'est toujours dur, enfin, pour ma part, d'après repartir sur un nouveau cycle, repartir sur un nouveau coaching. Enfin, c'est un peu comme une nouvelle nana, quoi. Tu repars de zéro, il faut apprendre à revivre ensemble, il faut apprendre des nouvelles choses. Et pour moi, ce n'est pas forcément hyper simple. Donc, c'est pour ça que le moins de coach j'aurai pour finir ma carrière, je pense que le mieux, ce sera pour moi. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va encore faire 10 ans ensemble. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on intégrera peut-être quelqu'un aussi en plus pour faire des semaines. Je pense qu'on est tous les deux adaptables. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra continuer de bosser ensemble le plus longtemps possible tant que je jouerai.
Ça te coûte cher, toi, un Nico de leader? Est-ce que c'est payé à la semaine?
C'est
des forfaits à la semaine, en tout cas.
Non, on ne fonctionne pas comme ça, mais ouais, c'est, on fonctionne par mois. Mais en vrai, de vrai, c'est pas, je ne connais pas très bien les tarifs des mecs. Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup parlé, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi, j'estime que ce rapport qualité-prix, c'est très bien. Donc voilà, tant que moi, je m'y retrouve. C'est pas un sujet tabou, mais moi ça me regarde pas ce que les autres payent et tout. Tant que nous deux on est content de comment ça fonctionne entre nous et lui et moi on s'y retrouve.
Ouais.
Mais je t'avoue que je suis pas très au fait sur les prix des coachs.
Je crois que c'est entre. Bon, forcément, t'as des exceptions. Hein. Tu vois, Leo Zimbler qui a commencé avec Benoît Paire qui avait pas une thune. C'était 400 euros le mois, je crois.
Ouais, j'imagine.
Donc, c'est vraiment que dalle parce que le gars n'avait pas d'argent. Maintenant, quand tu es sur le circuit un peu installé, je crois que c'est entre 1002 et 5000 la semaine. 5000 pour les mecs qui ont vraiment même plus pour certains. Tu vois, là, j'entendais Fissette, Win Fissette, je crois. Tu vois qui c'est ou pas? Je crois que c'est un Belge. Il est avec une Chinoise, prend 500 000 l'année. Tu vois.
C'est pas mal.
Parce que elle a fait des Chinoises, avoine. Ouais. Et puis, certains ont des bonus de dingue. En fonction des joueurs. Mais ouais, on est entre, on va dire, 1002 et 3005 peut-être la semaine en moyenne. Et après, 4000, 5000 pour les plus capés, quoi.
Okay.
Tu t'entraînes au CNE, non?
On s'entraîne principalement au CNE. Mais Nico vit à Poitiers. Cet hiver, on est allé s'entraîner au Krebs de Poitiers,
ouais.
Là où il y a le Pôle France. Pareil, on a plutôt notre base à Paris, mais c'est pas... C'est pas que Paris, je vais aussi un peu à Poitiers parce que un, c'est un endroit que j'aime bien et deux, parce que lui, ça lui permet de rester un peu aussi chez lui. Donc voilà. Et puis parfois, s'il faut qu'on aille bouger ailleurs, on bouge tous les deux ailleurs pour s'entraîner.
Et quand tu es au CNE, c'est la Fédé qui met à dispo? Alors, pour manger ton truc, vas-y, hein, si tu veux.
Moi, j'ai vraiment plus rien à voir avec la Fédé.
D'accord. Donc tu dois payer quand tu vas au CNE?
Non. C'est gratuit, il y a des priorités. Et en fait, les priorités 1 ont le droit de réserver les cours en priorité 2, 3, 4. Et moi, je suis priorité 2. Et du coup, tu as accès à la gym avec ton préparateur physique et tu as le droit au kiné. Enfin, moi, j'ai vraiment le droit à tout. Juste, s'il y a 7 terrains au CNE, s'il y a 7 priorités 1, et ben moi, j'attends qu'ils finissent leur entraînement et je tape après. Mais c'est assez rare. Et...
D'accord.
Mais non, le CNE, c'est vraiment. Mis à disposition pour quand même beaucoup de joueurs, même des...
C'est beau geste, quand même.
Ouais, c'est beau geste, mais je pense que aussi c'est normal que les meilleurs Français puissent profiter des infrastructures, mais non, c'est aussi cool qu'on ait un centre comme ça à Paris, et voilà, où il y a plein de bons joueurs l'hiver pour s'entraîner, c'est vraiment cool.
Ouais. Juste, mon calcul, c'était les mecs qui sont chez Mourat ou à la All-In, admettons, qui payent, on va dire... je sais pas, 40 000 l'année, c'est coach inclus, c'est ça?
Honnêtement, je suis vraiment nul là-dessus et c'est pas quelque chose que...
Qui t'intéresse plus que ça?
Pas un sujet que j'aborde.
Tu fais pas forcément ton calcul sur le budget annuel quoi là-dessus? Toi, tu fais en fonction de...
Pour moi, si.
Ouais.
Et du coup, les autres dans les académies, franchement, je connais vraiment pas les tarifs. Et je sais moi ce que je paye, mais je sais pas ce que les autres payent vraiment... Je sais pas ce que ça peut inclure, pas inclure.
Greg Barrère, par exemple, qui a la All-In, tu sais pas exactement?
Non, c'est pas un sujet que.
Ok.
Enfin, s'il m'en parle et tout, on en parlera ouvertement tous les deux, mais c'est pas un sujet que moi je vais aborder avec lui.
Ouais.
J'estime que ça le regarde, même si c'est un super super pote. Voilà, s'il a envie de m'en parler, il m'en parle. S'il a des questions, je répondrai, mais.
Ouais.
Moi, de moi-même, je ne vais pas lui poser. Voilà, il est très heureux, ça se passe très bien. À la All-In, ils font des super trucs. Donc, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse plus que ça.
D'accord. Tu dirais que ta saison, elle te coûte combien, voyage inclus? Ça, tu fais un bilan là-dessus quand même pour voir un peu ou...
Non, c'est sûr que tu fais un bilan. Je pense que si je fais... Bon, l'année dernière, ça a été un peu particulier parce qu'en fin de saison, j'ai pas beaucoup joué, mais avec les voyages, sachant qu'il y a des longs voyages, qu'il y a quand même pas mal d'hôtels, c'est entre 80 et 100 000 euros de frais en incluant le coach. Sachant que moi, je voyage avec juste mon coach ou juste mon préparateur physique, c'est rare.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Qu'ils viennent les deux en même temps.
Ok.
Et donc j'ai un petit staff entre guillemets. Il y a des mecs qui ont un physio, qui a des mecs qui ont encore un plus grand staff.
Ouais.
Dans un avenir proche, j'aimerais trouver un physio qui puisse voyager un peu plus avec moi.
Pour, d'accord.
Pour essayer d'optimiser encore un peu plus ma récup ou voilà, quand tu pars loin comme ici au début, c'est pas facile de dormir. Je pense que tu as dû te rendre compte. Plein de petits détails comme ça, mais qui font à la fin d'une saison une différence et financière, mais probablement aussi sur 2-3 résultats. Et à la fin, la petite différence financière, tu la retrouves dans tes résultats et au final, ça t'a pas coûté énorme.
Et ça va être quoi, du coup, la différence entre faire appel au physio / kiné du tournoi versus avoir le tien qui, oui, connaîtra mieux ton corps, donc tu dois gagner du temps là-dessus? Mais bon, tu te dis que les mecs, c'est leur métier, tout ça. Tu le ressens où? Tu penses vraiment la plus-value du truc?
La vraie plus-value, c'est que quand tu as ton propre kiné, tu voyages avec ta table et tu peux rentrer à l'hôtel, tu fais les soins quand tu veux, si tu veux les faire avant manger, si tu veux les faire après manger.
Ouais.
Il est vraiment à ta disposition. Quand tu arrives là, chez les kinés Open Australie, ils sont beaucoup. Et sur les heures de rush, entre 3 et 6 heures, parfois, tu as une heure et demie d'attente, parfois, tu n'as pas T'as un kiné avec qui ça se passe un peu moins bien, même si voilà, ils sont tous bons, tout ça, mais parfois faut attendre, parfois faut attendre une heure et demie. Enfin,
d'accord.
Et puis voilà, ils ont un temps imparti pour toi parce qu'il y a d'autres joueurs après, parce que ça enchaîne, parce que t'es pas tout seul.
Ouais.
Quand t'as ton physio pour toi, bah, le massage il dure le temps que t'as décidé en fait. Et si t'as mal au dos, bah, il va te prendre le matin, le midi, le soir.
Ouais.
Et c'est quand tu veux, c'est où tu veux. Enfin,
quand tu veux, où tu veux.
C'est comme ton coach, quoi. Il s'occupe de toi tant que t'en as besoin.
Ouais.
Alors que voilà, bah, les physios de l'ATP, ils sont pas là que pour nous. Mais du coup, c'est pas vraiment le même service qu'ils nous proposent. Mais pour moi, les deux sont très bien. C'est juste que sur certaines semaines, quand t'as envie vraiment de mettre l'accent sur la récup ou que t'es en fin de tournée, tout ça. Pour ma part, je pense que c'est pas mal de voyager avec un kiné perso pour bah, tu rentres à l'hôtel le soir tranquille, tu te poses, tu peux faire ta récup.
Ouais.
T'as pas besoin de rester jusque 7h, 8h sur le site pour attendre un kiné.
Mais, ouais, je comprends.
De toute façon, si les meilleurs mondiaux font ça, c'est qu'il y a quand même un petit avantage. Mais sur les 250, comme il y a moins de joueurs, c'est un peu plus facile. Mais pareil, du coup, il y a moins de physio. Donc, il y a toujours un petit peu d'attente. Donc, voilà, mais c'est sûr que financièrement, ça reste un petit budget.
Et donc, la journée off, t'as pas touché la raquette?
Non.
C'est bon, ça.
Je suis pas un malade mental de la raquette
ah ouais.
Avant les tournois.
Ouais.
Là, je suis arrivé à Melbourne il y a quasiment 2 semaines, lundi.
Ah oui, déjà?
Ouais, mais j'ai perdu le premier tour des qualifs à Brisbane.
Ouais.
Il a fait très moche là-bas, donc on a décidé de venir hyper vite ici. Donc ça fait 12 jours de suite que je tapais ici sur le site dans les conditions. Donc vraiment, je connais les conditions parfaitement. Et les veilles de tournoi et tout, je ne suis pas un fou de taper la balle. Je préfère, voilà, je me suis vraiment bien entraîné, je suis prêt. Je préfère me reposer, sortir un peu du contexte. Je n'ai même pas été sur le site aujourd'hui. Et bien me ressourcer. Et de toute façon, je sais que je suis prêt. Et je sais que maintenant, les dés sont jetés et que ce n'est pas l'entraînement d'aujourd'hui ou de demain qui va changer mon tournoi.
Ouais. Tu prends qui au premier tour là?
Un qualifié.
Un qualifié, ok.
Donc là, les qualifs doivent être sur le point de se terminer.
Et tu te dis que tu as un mec qui aura 3 matchs dans les pattes, donc du rythme, ou tu te dis cool, c'est un mec moins fort qu'en tableau?
Alors, moins fort que dans le tableau, non, parce que je pense que les mecs des qualifs et les mecs du tableau, ils ont quasiment le même niveau.
Ouais.
Aujourd'hui, il a fait très chaud. Et on va rejouer déjà dimanche, donc ils auront 15 jours de récup. Donc ils seront probablement un peu plus touchés. Ce que je me dis juste, c'est que bah, c'est des mecs, au vu du tableau, à part il y a Goffin qui s'est qualifié, Lyol Daris, mais sinon tous les autres, ils ont peu d'expérience sur les matchs en Grand Chelem, ce sera leur première fois sur un match en 5-7. Pas mal qui se sont qualifiés aussi pour la première fois, donc ça va être des joueurs avec peu ou moins d'expérience. Mais ça reste dur. Je pensais que j'allais rejouer contre Aziz Dougaz parce que je devais jouer au premier tour des qualifs et finalement ça s'est pas fait. Je me suis dit que j'allais jouer au premier tour du tableau, mais finalement il a perdu.
Et il peut être lucky loser, hein?
Non, j'ai regardé, il pourra pas parce qu'il y a trop de mecs mieux classés devant lui.
Et quoi, ça te saoulait?
Comment?
Ça te saoulait de le jouer?
Non, non, mais je trouvais ça drôle. Franchement, enfin, de toute façon, c'est pas moi qui décide ça, donc je ne fais pas de plan, mais j'aurais trouvé ça drôle qu'on doive se jouer au premier tour des qualifs et que finalement on joue au premier tour du tableau.
J'ai une petite anecdote avec ça, c'est que je bossais pour une agence l'année dernière dont il fait partie maintenant. Et. Donc on se connaît bien, j'ai fait un documentaire là sur Boulogne-sur-Mer dont il fait partie. T'as vu passer ou pas le truc Boulogne-sur-Mer?
Ouais.
T'as regardé?
J'ai parlé avec Franck.
Ah ouais. Ah, tu connais Franck?
Ouais, tout le monde connaît Franck.
Ah ouais, tu m'étonnes.
C'est une star.
et du coup là on a fait une interview début de semaine avec Aziz. Et pour aller faire l'interview, on va là où je loge. Et dans la voiture, il me fait me dis pas le tableau, j'aime bien jouer aux devinettes avec mon coach. J'ouvre l'application et je vois direct qu'il joue contre toi au départ. Et donc je me dis, putain, il prend la tête de série 1 des qualifs. Chaud, quoi. Dur. Et on parlait de toi. Il me fait, qu'est-ce qu'il me dit? Son coach lui avait dit qu'il jouait un mec qu'il connaissait très bien. Donc il dit, regarde pas si t'as des messages de potes parce qu'ils vont comprendre, tu vas comprendre qui c'est. Et donc il dit, peut-être Alice, peut-être machin, peut-être truc. Et là, j'ouvre le tableau et je dis, c'est Alice, tête de série. Il fait, je joue Quentin? Et je lui fais, je sais pas. Et il me fait, je joue Quentin. Je sais pas, mec. Et donc, 2 heures après, il fait, putain, je savais que je jouais à Alice, vu ta réaction, vu ta gueule dans la bagnole. Et au final, il s'avère que un mec s'est retiré du tableau, donc t'es passé tableau.
Ouais.
Et comment tu le vis, ça? Est-ce que c'est mieux d'être tableau direct? Est-ce que t'aurais quand même aimé faire 3 matchs de qualif? C'est quoi vraiment ta position là-dessus?
Bah,
au vu de ton expérience.
Je m'étais préparé psychologiquement à jouer les qualifs parce que bah, quand le tableau est sorti, je n'étais toujours pas rentré. Après, c'est sûr que c'est mieux de les éviter parce que c'est compliqué de se qualifier, c'est dur. Il y a des journées comme ça où il fait chaud, ça joue bien. Il ne faut pas se rater. Financièrement, ça change quand même beaucoup la donne.
Est-ce que tu passes de combien à combien? Troisième tour qualif? Ou deuxième? C'est 40, je crois, deuxième.
Ouais. Et dans le tableau, il y a quasiment 80.
Ouais. Et troisième, c'est combien?
Troisième tour des qualifs?
Ouais. 60, peut-être?
Ouais, j'aurais dit 60.
Ouais.
Et
ouais, c'est quand même une bonne diff.
Non, c'est une vraie diff. Et puis voilà, ça m'a laissé un peu plus de temps pour me préparer. Le seul truc que j'aurais souhaité, et je pensais vraiment en étant 3 dehors, rentrer assez facilement avec des retraits, c'est aller jouer à Adélaïde. Mais heureusement, je suis rentré dans le tableau, donc j'ai eu plus de jours pour me préparer ici. Mais voilà, j'ai eu la nouvelle dimanche très tard dans la soirée. Donc moi, j'étais prêt à jouer les qualifs. Je savais que j'allais jouer contre Aziz, donc je commençais à me préparer.
Ouais.
Ou commençais à en parler avec mon coach. Maintenant, c'était un peu bizarre parce que tu es prêt à jouer le lendemain, tu vois la proc, tu dis tu joues troisième, tac. Et dans la soirée, assez tard, on te dit bah mec, finalement tu es dans le tableau, tout ça, donc tu es hyper content. Et à la fois, c'est bizarre parce que tu étais prêt à jouer le lendemain, t'étais un peu, tu commençais à être un peu tendu pour ton match le lendemain, tout ça. Donc voilà, c'était cool. Et puis finalement, ça m'a laissé des jours de préparation en plus. Et franchement, je me suis bien préparé.
T'as envoyé un gros command quand t'as appris la nouvelle?
Même pas, j'étais assez. Vraiment, on commençait à parler d'Aziz, on commençait à parler du match, tu commences à réserver ton terrain d'entraînement pour le lendemain, donc tu te projettes tout ça sur la journée en main, et d'un coup on te dit bah non, demain il n'y a pas de match. C'était assez bizarre, mais ouais, j'étais content. Et puis du coup, bah, tu rebascules direct dans quelque chose d'autre, tu te prépares direct à jouer un 5-7, un grand chelem. Donc le soir, tu es super content, mais ça bascule direct sur d'autres émotions.
Ça, c'était une question que j'avais justement sur les 5-7 en Grand Chelem. Boulogne-sur-Mer, il y avait Terence Atman qui vient de se qualifier.
Ouais.
Qui, premier tableau final en Grand Chelem. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à part Goffin et Harris, il n'y a pas grand monde dans les qualifs qui ont cette expérience. Est-ce que pour toi, ça a été compliqué, cette transition de gestion de 7-5-7, la concentration, le niveau physique, et comment t'as géré, combien de temps ça t'a pris, ça a été quoi les déclics, comment t'as fait?
Moi déjà au début j'avais peur de partir sur un match en 5-7, de physiquement, c'était quelque chose que j'appréhendais vraiment.
Ouais.
Surtout que cette année ça va, il fait pas très chaud encore, mais il y a des années où vraiment il a fait très chaud. Et, quand tu sais que tu peux partir sur un match de 3h30, 4h, 4h30, physiquement je me sentais pas forcément toujours prêt. Au début, tu penses que tu vas pouvoir jouer pendant 3h, 3h30 à une intensité de dingue. Et en fait, c'est pas vrai. Sur un match en 5-7, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut apprendre à gérer un peu tes temps faibles quand tu es un peu moins bien. Enfin, ça reste très long un match en 5-7. Moi, ça m'a pris pas mal de temps. Et voilà, c'est sûr que quand c'est les premiers, bah, au début, tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances. Tu en as peut-être fait quelques-uns à l'entraînement, t'as déjà passé le temps sur le terrain, mais c'est complètement autre chose. En plus, voilà, ouais. C'est une pression qui est nouvelle, c'est une atmosphère assez nouvelle. Donc je pense que ça reste un avantage pour moi d'en avoir fait déjà pas mal contre des joueurs qui ont moins d'expérience, même si, au vu des qualifiés, il y a beaucoup de bons joueurs.
Compris. Donc là, tu prends qui? Ah oui, qualifié.
Je sais pas encore. Et le seul avantage des qualifs, c'est que bah, t'as enchaîné les matchs, t'es dans les conditions, en plus là ils ont 15 jours de repos.
Ouais.
Donc ils vont rester vachement concentrés et connectés dans le tournoi. C'est un avantage et c'est aussi un inconvénient parce que tu vas aussi moins récupérer.
Première fois qu'ils jouent le dimanche, non?
Ouais, première fois qu'ils jouent le dimanche.
Ouais. Je me souviens l'année dernière, on avait une joueuse de l'agence qui s'était qualifiée et il y avait eu 2 jours de récup, plus, elle avait joué le mardi, je crois. Donc, tu relâches, tu te reconcentres, tu repasses par un pic de stress, bon, surtout dans son KL, parce que c'était la première qualif en tableau final. Et c'était marrant de voir à quel point tu passes par des stades émotionnels totalement différents. Quoi. Donc, tu es marié, tu es un homme marié.
Oui.
Est-ce que tu sens que ça te... Déjà, ça fait combien de temps? Un an, non, comme ça?
Un peu plus d'un an, ouais.
C'est beau. Ça fait combien de temps que tu es en couple?
Ça va faire 5 ans.
Tu ne raconterais pas ta demande rapide, là?
Rien de... On garde tout ça confidentiel, c'était rien d'incroyable.
D'accord, ok. Est-ce que tu sens que ça t'apporte une certaine stabilité en plus ou pas forcément?
Le mariage en lui-même, pas forcément. C'est plus la relation, le fait que je puisse compter sur elle, le fait que dans les moments durs, voilà, j'ai quelqu'un à qui appeler. Quand je rentre à la maison, on ne parle pas forcément de tennis, enfin, on ne parle même pas de tennis de manière générale. Donc, c'est plus tout ça, ce détachement, voilà, avoir quelqu'un sur qui se confier et quelqu'un de différent de ton coach qui ne va pas avoir le même rôle, quelqu'un qui va être là pour t'épauler. Donc, on est vraiment quand même ensemble dans ce projet, même si au final elle reste assez seule dans les tournois, elle fait quand même partie de mon projet et elle a tout autant de mérite que moi.
Elle fait quoi dans la vie?
Elle donne des cours de soutien scolaire.
Et injouable de venir là avec toi?
Bah, elle a son rythme, elle a sa vie à Paris, elle a son travail, donc voilà, on a trouvé un bon équilibre comme ça et quand elle peut, elle vient, mais c'est pas... Ça reste assez rare et on a trouvé notre équilibre comme ça.
Ouais. T'es comment sur le thé et compagnie là?
Du coup, je me suis un petit goûter tranquillou, des fruits granola, un petit thé. Et puis...
Tu fais la teuf parfois sur les tournois?
Je suis pas un grand teufeur.
Ouais.
Je suis plus du genre à prendre l'avion 25 minutes après ma défaite.
Ah ouais?
Et rentrer à la maison que de rester faire la teuf.
Ah, tu te tires
Ouais, quand j'ai perdu, vraiment, ça m'insupporte de rester sur le tournoi et je fais tout pour rentrer le plus vite possible.
D'accord. Et parfois, ça t'arrive de prendre des vols hors de prix, coûte que coûte, pour te barrer? Ou tu fais quand même...
Je fais attention, mais en général, j'aime bien partir vite et partir de l'endroit. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote un peu merdique de l'année dernière à Rotterdam où j'ai perdu contre Greg Barrer.
Ouais.
En 3 tie-break, on est en 7-4-1.
Ouais.
Et c'était au dernier tour des qualifs. Et j'étais à bout de nerfs. Je sentais que je jouais bien, mais je gagnais pas un match à ce moment-là.
Ouais.
Et la gare est vraiment en face de l'hôtel. Et je me suis cassé dans le premier train au bout de 10 minutes.
Mm.
Et dans le train, je me suis dit, putain, je suis vraiment con parce que j'ai l'impression que je vais être lucky loser. Et j'y suis retourné le mardi et j'ai joué le mardi et j'ai reperdu 7-6 au 3ème.
Contre Van de Zandschulp.
Et j'ai repris l'avion le train 5 minutes après ma défaite.
Tu sais que ouais, j'étais dans un espace de coworking, je me souviens très bien, je regardais ton tie-break au 3ème. T'avais eu balle de match, je crois. Hein.
J'avais pas eu balle de match contre Gautic.
T'avais fait une grosse partie quand même. Enfin, le mec jouait super bien, je t'avais trouvé solide, je m'étais dit, putain, ça joue à rien.
Donc,
ah ouais. Ok.
Moralité, prenez quand même le temps d'analyser la situation avant de partir d'un tournoi.
T'étais tout seul sur le tournoi?
Non, mais j'avais. J'entendais pas, j'avais mes écouteurs.
Ah bah. Genre Nico, lui, tu te barres 10 minutes après, il se barre 10 minutes après, quoi.
Bah, si de toute façon je veux pas rester, il va pas rester tout seul. Mais,
ouais. Mais là, je veux dire, c'était trop pressé.
Ouais, ce jour-là, j'étais à bout de nerfs et je m'en suis voulu après, mais bon. C'est parti des conneries à pas faire. Mais...
C'est cool Rotterdam quand même?
Le tournoi est hyper sympa.
Ouais.
Vraiment, les cours d'entraînement, le central est immense. C'est un beau tournoi. Après, la ville est pas incroyable.
Pas jojo?
Il pleut du matin au soir.
Merveilleux ça.
Mais non, c'est un très beau tournoi qui est pas si loin que ça de Paris. Si un jour...
J'y vais là.
Si un jour... Les gens qui nous regardent ont l'occasion d'y aller. C'est un beau tournoi pour voir les meilleurs mondiaux s'entraîner de très près. Et le cours 1 et 2 sont vraiment un peu comme à Bercy, vraiment des très beaux petits cours. On est très très proche des joueurs. Et le central est vraiment fabuleux. Donc c'est plutôt un joli tournoi.
En tout cas, je vous ferai une vidéo inside pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller. Là, c'est dans un mois. Hein. Ça arrive hyper vite.
Ouais.
Et tu dis les cours 1 et 2, on est très proche des joueurs. Toi, si tu devais regarder. Deux, trois joueurs, ce serait lesquels?
quand ça t'arrive?
Au-delà du soutien moral que tu peux apporter à certains.
En ce moment, les joueurs que j'aimerais bien voir jouer?
Ouais.
Tu vas voir Adrien régulièrement, non?
Je vais voir Adrien. Ça ferait partie des joueurs que, même si j'étais pas pote, j'irais voir jouer parce qu'il se passe toujours un truc.
C'est un de tes meilleurs potes du circuit, non?
Ouais. J'adore voir jouer Dimitrov.
Ouais.
En ce moment...
T'es pote avec lui ou...
Non.
Non?
Non, là, je te parle vraiment purement tennistiquement. Sinon, en ce moment, c'est quand même cool d'aller voir jouer Ben Shelton.
Ouais.
Il se passe toujours un truc, il a toujours...
Il est frais, lui. Hein.
Ouais.
Il a la banane.
Ouais.
Et tu le connais un peu?
Ouais. Et franchement, c'est un mec vraiment super cool, qui se prend pas la tête, qui est...
Comment t'as connecté avec lui?
Bah, l'année dernière, on s'est joué à Auckland. On s'est entraîné quelques fois ensemble. Franchement, il est vraiment cool.
Et juste un Dimitrov qui est là depuis toujours, toi qui es là depuis longtemps, c'est quoi? C'est que vous n'êtes jamais entraîné ensemble? C'est que...
Bah un, moi j'ai pas fait les mêmes tournois que lui, ouais c'est ça, tu peux pas être pote avec tout le monde, on sait pas forcément entraîner ensemble,
ouais.
On sait jamais jouer. Ouais c'est plus ça quoi, parfois le concours des circonstances fait que t'es pas amené à être plus pote que ça avec un mec. Mais...
Ok. Qui d'autre?
En ce moment je trouve Rune très impressionnant dans sa façon de jouer. Pareil, je trouve qu'il frappe tellement fort, il se passe un truc quand il joue quoi.
Ok.
Donc voilà, sinon qui est-ce qu'on a d'atypique un peu?
Gaël?
Ouais, Gaël forcément, on se rappelle tous de son match à Roland l'année dernière contre Baez, là où ça a fini après.
Incroyable, ouais.
Mais
poteau avec Gaël ou...
Ouais, Gaël, tout le monde le connaît, tout le monde s'entend bien, et franchement il est adorable.
Ouais.
Il est toujours là, donc il y a des petits conseils aux Français à nous pousser, c'est toujours cool d'avoir un mec comme ça dans...
C'est bon ça.
Dans les vestiaires, et franchement, il est top. Sinon, bah, c'est sûr que c'est cool d'aller voir un peu Richard. Je pense que ça reste malgré tout sa dernière année ou son avant-dernière. Donc, c'est sûr qu'il va nous manquer sur le circuit. C'est beau de voir un mec voilà, qui est depuis 2005, qui n'était pas sorti du top 100 quand même.
C'est hallucinant.
Il a quand même un tennis de dingo. Donc, voilà, là-dessus, on est quand même chanceux d'avoir eu une telle génération avec des joueurs français assez incroyables.
Je l'ai croisé tout à l'heure à Couillon, je suis passé, je le croise et il me fait « ouais, je tape là, je joue dans France, je sais pas, une demi-heure contre Paul Mant, parce qu'il y a un mec qui s'est retiré. » Et je lui dis « mais t'as déjà joué ici ?» Il fait « ouais, à l'époque, j'ai joué à Agassi, Rafa. » Incroyable. C'est vrai qu'on oublie vite quand même.
On oublie vite, mais très vite. 18 ans qu'il est au plus haut niveau et qu'il n'a pas bougé quoi.
Ouais c'est ouf.
Donc c'est assez dingo.
Ouais. Ok, on rentre à l'hôtel?
Allez. Non, la première fois que je suis venu, je dormais ici.
C'est quel hôtel là?
C'est l'hôtel Sofitel.
Ah bien. Et quoi, c'était l'hôtel du tournoi à l'époque?
Non, j'avais un deal quand j'étais vraiment une star.
À la belle époque?
À la belle époque.
C'est beau ça. C'était le genre de deal où tu fais un ou deux postes et ils t'hébergent gratuitement?
Exact.
Comment t'avais trouvé ça?
C'était mon ancien agent Fabien Paget qui avait trouvé ça. Il y avait Nico Mahu et Pierre Gerber aussi qui bossaient avec lui et on restait tous, dormait tout ça.
Sympa.
Très sympa.
Il y a un truc que j'ai vu qui a évolué dans ta carrière globale, générale, c'est ta gestion des réseaux. T'as embauché quelqu'un, non?
Exact.
Parce que c'est Cali ce qui est fait sur Insta.
On le félicite.
Bah ouais, tu peux nous dire quel était le parti pris, la décision, ça s'est fait quoi?
Bah c'est mon agent qui m'en a parlé en disant que ce serait pas mal que je me professionnalise un peu sur mes réseaux, que je développe un peu tout ça.
Qui est ton agent?
Jeremy Jones.
Ouais.
Du coup on salue d'ailleurs. Et donc voilà, dans une envie de se faire progresser un peu mes réseaux sociaux, maintenant c'est tellement important pour les sponsors, quasiment même plus important que les résultats tennistique, mais je suis pas quelqu'un qui suis un grand fan de faire ces choses-là. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Je sais que c'est difficile. Je sais que la personne qui gère mes réseaux est toujours un peu obligée de me courir derrière pour que je lui envoie des petites vidéos, machin. Je suis pas hyper fan.
Ouais.
Mais je sais que c'est important et je sais que pour avoir des sponsors maintenant, c'est quelque chose de primordial. Donc j'essaye de faire au mieux.
Comment tu l'as trouvé?
En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on s'entraînait ensemble dans le même club, au tennis club des Lilas, quand on était petit.
Ouais.
Et qu'on s'est complètement perdu de vue et qu'en fait, il bossait pour le PSG, tout ça. Et il y a quelques joueurs du PSG qui s'occupent en privé. Il gère aussi un peu les comptes du PSG sur Insta, tout ça.
Ouais.
Et du coup, mon agent a fait une sorte un peu d'appel d'offres et puis il s'est proposé, ça a fuité et puis je trouve que ce qu'il fait c'est top. Du coup, mes réseaux sociaux ont un peu…
Ça prend, ouais.
Ça prend un peu. Après, voilà, c'est sûr, ça dépend aussi beaucoup des résultats sportifs, mais c'est cool, c'est quali. Et puis voilà, faut que j'arrive à me discipliner et à envoyer un peu plus de contenu.
Et ça t'a rapporté un ou deux sponsors, concrètement ?
Concrètement, j'ai signé avec Fila. Pour l'instant, il n'y a pas eu de sponsor majeur. Mais,
c'est pas forcément grâce à ça. Mais ça aide.
Je pense que ça a aidé.
Ouais.
Mais non, je pense que en fait, le jour où tu fais ton bon coup sportif, un gros résultat sportif, le fait d'avoir un bon… des bons réseaux sociaux t'aident à avoir, je pense, des meilleurs sponsors. Et si tu as déjà fait ton bon résultat et que tes réseaux sont un peu pourris, je pense que tu peux un peu te faire rattraper par ça. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire des bons résultats et les réseaux seront bien gérés. Donc voilà, maintenant, à moi d'aller me bouger sur le terrain.
Yes. Tu vois de quel œil les médias, parce que moi, je découvre depuis une grosse année. Et forcément, parfois, c'est un peu délicat. Tu vois les anciens qui se méfient quand même des médias parce qu'ils ont eu des bad beats. Là, tu acceptes de faire une interview comme ça où on prend le temps. Donc, merci. Franchement, c'est hyper cool. Et c'est quoi, toi, ta vision des médias ? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, des bonnes expériences ? Comment tu vis le truc ?
Ouais, tu as un peu de tout. J'ai accepté avec toi parce qu'on se connaît bien, parce que je sais ce que tu vas faire, ça va être… Cali, parce que ça va être détente, parce qu'il n'y aura pas de questions pièges, tout ça. Mais par exemple, je sais que l'année dernière, j'ai accepté de répondre à des questions concernant Ben Shelton, tout ça. Et je sais que l'article, il a été tourné un peu de manière à mettre en porte-à-faux, alors que…
C'était quoi le média ? Français ?
Ouais.
Ah ouais ? Bon, peu importe, on va pas
sortir le dos. Mais moi, je disais juste que voilà, un mec qui a fait quart à l'Open d'Australie, que derrière… Il fasse pas une demi sur un 250. Oui, forcément qu'il devait être déçu de sa saison et je crois pas mal parler de lui ou lui manquer de respect en disant ça, que on s'attendait à ce qu'il gagne au moins un titre ou deux sur le circuit l'année dernière, et ça a été tourné de manière un peu voilà. Je sais qu'il y a eu des gens sur les réseaux qui ont dit Alice il a le melon, Alice il respecte pas Shelton, alors que
rien à voir.
Et du coup, voilà, il faut toujours se méfier de ce que tu dois dire. Et sur ce genre d'interview avec toi, je sais que je peux parler librement et parler plein de sujets. Donc, je trouve ça cool. Et quand tu n'as pas à te méfier, c'est encore plus sympa. Donc,
trop bien.
Mais c'est sûr que, en plus, moi, j'ai mon coach qui n'a aucun réseau, qui n'est pas du tout sur les réseaux, qui n'aime pas trop ça. Donc, là-dessus, c'est un peu rigolo. Les anciens, ils sont beaucoup moins que nous. Mais voilà, quand tu vois les jeunes comme Lucas Van Hache, comme Arthur Fils, c'est hyper important. Ils ont des super réseaux et ils ont tout intérêt à se mettre en avant et à prendre des bons mecs pour verrouiller là-dessus. Parce que je leur souhaite des grosses carrières, ce sera important pour eux d'être bétonnés là-dessus et de faire attention aussi.
Tu sais de quoi tu as envie, toi, après ?
C'est une bonne question.
On verra. Chaque chose en son temps.
Chaque chose en son temps.
Merci, mec. C'était cool.
Très cool.
C'est sympa. Tu fais quoi, la petite récup ?
Je vais peut-être aller me faire un petit tour à la gym, m'étirer un peu et puis…
Dîner
avec le coach.
Demain, on est samedi. Veille de match, tu fais quoi ?
En fait, ils vont nous sortir les qualifiés là dans pas longtemps et le programme de dimanche.
Ouais.
Du coup, en fonction de ça, on adaptera un peu la journée de demain en fonction du mec que je vais jouer et en fonction de l'horaire auquel je vais jouer.
Ouais.
On adaptera un peu tout ça, mais je pense que demain, il y aura une heure et demie de tennis, un peu de récup. Rien de fou et puis bien se préparer pour dimanche.
T'es comment sur l'anglais ?
Je suis plutôt pas trop mal.
Ah ouais ?
J'ai un accent français bien dégueu, mais sinon je suis pas si mal.
Bon top, je suis avec une relation presse là de Melbourne. Si tu veux bien qu'on fasse 3 minutes en anglais pour un journal local. Meilleur mec, l'objectif c'est quoi là, tant australienne que derrière la saison ? Tu t'es fixé un truc, un cap peut-être ?
Non, je me sens bien, j'ai pas de cap particulier. J'ai fait mon premier, troisième tour l'année dernière.
Où ça ?
Grand Chelem, à Wim.
Wim, ouais.
Donc, ouais, je me sens très bien, je me sens bien préparé. Donc, maintenant, place à la saison. Et puis, pas de cap en particulier, mais j'ai vraiment hâte de commencer cette saison.
Allez, mec, vamos. À la prochaine.
Ciao, les gars.
Ciao.
Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanišević, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.